10 minutes chronique.
It is a pleasure and an honor to introduce you, Mr. T.C. Boyle.
Well, thank you for the nice introduction. Well, this is a special occasion for me. Not only am I in one of my favorite cities in the world, but this is the very last night and the last performance of a book tour that has lasted for 2.5 months.
Vous venez d'entendre la voix de Thomas Corrugeson Boyle, dit T.C. Boyle, né en 1948 dans l'État de New York, qui est longtemps apparu comme la rockstar des écrivains américains. Son allure, son style de vie et d'écriture contribuaient à cela. L'autre côté du personnage, docteur en littérature, n'a pas effacé cette réputation jusqu'à aujourd'hui. C'est un de ses plus célèbres romans que nous aborderons ensemble, « America », titre original « The Tortilla Curtain ». T.C. Boyle, grâce à un humour acide et des dialogues percutants, y exprime ses préoccupations pour l'environnement, se positionne en détracteur de l'autodéfense et dénonce le racisme envers les émigrants mexicains. Delaney, américain bon teint, réside en Californie, loin du centre de Los Angeles, dans un ensemble de propriétés nommées les domaines d'Arroyo Blanco. Un terrain de golf, 10 cours de tennis, 200 hectares que se partagent 250 demeures de style mission espagnole, peintes dans l'une des 3 nuances de blanc autorisées. Delaney y vit donc avec sa deuxième épouse, le fils de celle-ci, leurs 2 chiens et leur chat. Ce jour-là, il se dirige au volant de sa voiture vers le centre de recyclage quand il renverse un homme, surgit de nulle part. Tout s'était passé si vite. Un virage après l'autre, la banquette arrière enfouie sous les journaux, les pots de mayonnaise et les boîtes de Diet Coke à recycler. Lentement, il remontait le canyon, lorsque d'un seul coup, il s'était retrouvé en travers du bas-côté, dans un nuage de poussière qui peu à peu se dissipait. L'homme devait s'être tapi dans les buissons, telle la bête sauvage, tel le chien errant ou le chat qui déchiquette l'oiseau, et au tout dernier moment, s'être rué sur la chaussée pour se jeter au suicide. Alors il y avait eu son regard ahuri, l'éclair de sa moustache, sa bouche qui s'ouvrait puis s'affaissait sur un cri muet, alors qu'il y avait eu le coup de frein, l'impact, le raclement de marimba des pierres sous la voiture et pour finir, la poussière. L'homme, lui, avait disparu. Delaney ouvrit grand les yeux et desserra les dents. Déjà terminé, l'accident n'était plus qu'histoire ancienne. À sa grande honte, il pensa d'abord à sa voiture. Était-elle souillée, corniflée, cabossée? Puis à sa prime d'assurance. Son bonus en serait-il affecté? Et après seulement, et avec quelques retards, à la victime. Mais qui était-ce? Où avait filé le bonhomme? Était-il sain et sauf, blessé, saignait-il? Était-il en train de mourir? Ses mains se mirent à trembler sur le volant. Il coupa machinalement le contact et la radio avec. Il était encore sanglé à son siège et tout planant d'adrénaline lorsque la réalité des faits commença enfin à le frapper. Il avait blessé, et peut-être même tué, un être humain. Delaney cherche l'homme qui a disparu. Il appelle, il parcourt les buissons. Rien. Quand il entend une sorte de râle, Delaney reporta vite son regard sur le sentier, puis sur le buisson à sa droite, et là, il était, l'homme aux yeux pailletés de rouge et à la moustache grisonnante, le tente le diable, le suicidaire, le clown, qui sortant brusquement de sa boîte devant son pare-choc, lui avait définitivement gâché son après-midi. Couché sur le dos, les membres ballants, il était aussi disloqué que poupée jetée dans un coin par la fillette impérieuse. Un filet de sang, gros comme un doigt, coulait à la commissure de ses lèvres, et Delaney ne se souvenait pas d'avoir jamais rien vu de plus rouge. 2 yeux, à l'éclat terni par la souffrance, se refermèrent sur lui, comme des mâchoires. Est-ce que vous... ça va ? S'entendit-il lui demander. L'homme est un émigré mexicain. Il ne parle pas anglais. Delaney lui propose d'appeler un médecin, de l'emmener en ambulance. Mais l'homme refuse, tout en bloc. Au bout d'un moment, Il dit un mot. Monnaie. Monnaie ? Répéta Delaney. Ok, bon, d'accord. Et il plongea la main dans sa poche pour attraper son portefeuille. Cependant que les rayons du soleil écrasaient le canyon, que les voitures filaient au loin, que tout là-haut dans le ciel un vautour se laissait porter par l'air brûlant qui montait de la terre. Delaney remonte dans sa voiture, reprend la route. Mais au soulagement de n'avoir tué personne, s'impose l'inquiétude pour l'homme qui est mal en point, et un sentiment de malaise. 20 $ pour le prix peut-être d'une vie, la vie d'un clandestin qui ne peut être soigné sous peine d'être renvoyé dans son pays. Il y avait du désespoir là-dedans. Un océan de tristesse qui le sortit de lui-même pendant un bon moment. Il essaya de se représenter la vie que menait l'inconnu. La chambre rikiki, le sac d'orange, deuxième choix qu'on achète chez l'épicier du coin. La pioche et la pelle, la purée de haricots qu'on sort toute froide, de la boîte de conserve à 49 cents, les tortillas non réfrigérées, le soda orange, la musique à flonflon d'accordéon et harmonie maigrelette. Que pouvait-il donc bien fabriquer dans Topanga Canyon Boulevard, à 1h30 de l'après-midi, tout seul, au milieu de nulle part? Il travaillait, il faisait sa pause déjeuner. Et brusquement, il comprit, ce qui le secoua beaucoup. Le caddie, les tortillas, la sente condamnée dans la poussière, il campait. C'était ça qu'il fabriquait. Il campait, vivait, se logeait, faisait des arbres, des buissons, de l'habitat naturel du parc d'État de Topanga, son domicile privé, chiant dans le chaparral, jetant ses ordures derrière les rochers, polluant et bousillant le cours d'eau pour tout le monde. C'était de la propriété d'État qu'il y avait là, de la terre qu'on avait arrachée aux bulldozers des promoteurs immobiliers, qu'on avait réservée au public, rendue à la nature, et pas du tout à quelques campeurs de ghetto. Et les risques d'incendie, hein? À cette époque de l'année, le canyon ne demandait qu'à s'embraser. Tout le monde savait ça. Brusquement, l'humeur de Delaney a basculé. Pourtant, c'est lui qui s'opposera, sans succès, à l'installation d'un portail sécurisé pour entrer dans le lotissement de l'Arroyo Blanco. Lui qui, au cours d'un affrontement houleux et néanmoins courtois, avec un voisin, tente d'exposer son point de vue. « Je n'en crois pas mes oreilles, dit-il. » Et déjà il ne semblait plus contrôler son bras qui s'était mis à décrire un grand cercle. « Tu te rends compte de ce que tu dis? Les immigrants sont le sang de ce pays. Car c'est ça que nous sommes, une nation d'immigrants. Et tous autant que nous sommes, nous ne serions pas là, si ce n'était pas le cas. » « Écoute, Delaney, reprit Jack. » Calme et raisonnable, la voix chantonnante. C'est une simple question d'équation. D'un côté ce qui rentre, de l'autre ce qui sort. Les clandestins du côté de San Diego ont versé 70 millions aux impôts, mais dans le même temps, ils lui en ont coûté plus de 240 en services sociaux. Allocations chômage, soins d'urgence, frais de scolarisation et autres. Tu as envie de payer tout ça, toi? Et les crimes qui vont avec, hein? Tu as aussi envie de payer pour ça? Tu as envie qu'un autre Mexicain fou vienne se jeter sous tes roues en espérant décrocher la prime d'assurance? Delaney tenta de réorganiser ses pensées. Il aurait voulu lui dire qu'il se trompait, que tout le monde méritait d'avoir sa chance dans la vie, et que les Mexicains s'assimileraient aussi bien que les Polonais, les Italiens, les Allemands, les Irlandais et les Chinois, même que d'abord la Californie, c'était aux Mexicains qu'on l'avait piqué. Mais il n'en eut pas l'occasion. Delaney oscille entre une compassion sincère mais fugitive et l'obsession de protéger ses biens et son mode de vie. Et c'est ce qui donne à ce roman son côté dénonciateur et humoristique ravageur. En parallèle aux tourments et aux prises de conscience fluctuantes de Delaney, Tissy Boyle raconte le quotidien douloureux et dangereux de Candido, l'homme surgi des buissons au bord de la route, et d'América sa compagne, dans ce monde paranoïaque où il tente simplement de vivre. C'est une entité plus puissante qui aura le dernier mot et résoudra tout. Mais pour combien de temps? 10 minutes chronique vous donne rendez-vous le 19 septembre. À bientôt.